Les bonnes ondes, nouvelle vie.
Nouvelle vie, on s'intéresse à celles qui ont basculé en mode positif suite à un événement bien particulier. Aujourd'hui, eh bien, ça se passe sur les chemins de Compostelle. Chaque année, ils sont quelque 250 000 venus de toute l'Europe à tenter l'aventure. Mais pour Nicolas de Roglaudre, le parcours n'a pas été banal puisqu'il l'a fait avec une prothèse à la jambe droite. 1540 km du Puy-en-Velay à Santiago en unijambiste. Un périple qu'il a terminé en juin dernier. Alors, pourquoi ce défi ? Eh bien, il va nous l'expliquer. Nicolas de Roglaudre, bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous. Vous avez 61 ans, vous avez été formateur scientifique en faculté catholique, mais aussi dans des grandes entreprises. Vous avez également enseigné la philosophie des sciences à la Catho de Lyon, suivi 7 ans en théologie, monté votre propre boîte. Je résume, hein, Nicolas, parce que votre CV pourrait occuper plusieurs pages. En tout cas, une vie bien remplie, mais qui va mal commencer à 18 ans, puisque vous êtes amputé de la jambe droite. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là ?
Bon, écoutez, c'est important de signaler que le parcours que j'ai accompli démontre un petit peu que quand on est handicapé, il y a un handicap physique et un handicap social. C'est-à-dire que j'étais décalé par rapport à beaucoup de gens de mon âge, et puis j'ai essayé de rattraper en faisant beaucoup d'études, et puis une carrière un petit peu chaotique, etc. Alors, ce qui s'est passé à 18 ans, j'étais soigné pour une autre maladie, d'ailleurs que j'ai toujours, et il y a eu une erreur de médication, et j'ai été atteint d'un nombre de thrombose artérielle, le sang se coagulait dans les artères, c'était vraiment une période très difficile. J'ai fait donc plus d'un an et demi d'hôpital, puis enfin de rééducation, de convalescence, puis ça a duré sur des années, puisque j'ai vraiment guéri totalement à peu près 22 ans plus tard, 22-23 ans plus tard. Et donc j'ai traîné ça pendant très longtemps.
En tout cas, cette amputation ne vous a pas empêché de marcher et donc de faire les chemins de Compostelle en quatre temps, hein, pour la partie française de 2013 à 2014, et puis d'une traite, 55 jours, de Pamplona à Santiago en Espagne. Alors, la question, elle est banale, elle est classique, mais qu'est-ce qui vous a décidé de partir, Nicolas de Roglaudre ?
Il y a d'abord des raisons extérieures. La première raison, c'est que j'avais fait une marche dans le désert avec un groupe de consultants.
Au Maroc ?
Au Maroc, donc expérience extraordinaire. Et celui qui animait cette marche, qui était en même temps un travail sur soi, m'avait dit, Nicolas, tu devrais essayer de faire Compostelle, c'est à ta portée, vu ce que j'ai vu ce que tu faisais là, dans le désert.
Alors vous vous êtes dit pourquoi pas ?
Alors je me suis dit pourquoi pas.
Ça commençait à mûrir un petit peu comme ça.
Oui, ouais. ça a travaillé, c'est quelque chose qui était un petit peu étranger à mon esprit, mais enfin j'ai pensé. Et puis Pierre est décédé par un cancer qu'il a emporté très rapidement. Alors ça m'a un petit peu motivé, me dire, il faut quand même que je fasse cette expérience.
Mais ça n'a pas été la seule raison.
Alors ça c'est une raison un peu, oui voilà, c'est un peu l'aiguillon. Alors, et j'ai également, pour donner un exemple, c'est ma fille qui a organisé une collecte, sachant que j'avais envie d'aller faire Compostelle, donc elle a mobilisé des gens, elle a récupéré 1500 euros, elle a créé elle a donné un compte en banque à des amis, à des parents, à des gens que je connaissais. Alors là, j'avais un devoir, d'une certaine manière, de répondre.
Au moins de remercier votre fille.
Voilà, ça, oui. C'était une chose expérience. Alors ça, c'est les aspects un peu extérieurs. Après, il y a surtout le désir de mieux me connaître moi-même à travers ce que le corps était capable de vivre. Ce que j'avais vécu au Maroc, je voulais vraiment le mettre à l'épreuve sur une longue, longue distance.
C'est-à-dire, c'était quoi ce besoin ? C'était de voir jusqu'où vous pouviez aller en termes de capacité physique ? Ou ça allait plus loin que ça ?
Non, je pense capacité physique, pas trop. C'est beaucoup plus une expérience vraiment de la sensibilité, de voir ce que j'étais capable de percevoir, de recevoir, baigner un peu dans la nature, dans l'aventure, ça c'était vraiment très important. Vivre une interface envers la nature.
Voilà, besoin de redécouvrir le corps, la nature, tout ce qui peut vous environner. Et puis également, vous lancer dans l'aventure, vous lancer dans l'inconnu, c'est une sorte de défi aussi. Parce que quand on part sur les chemins de Compostelle, on ne sait jamais comment ça va se passer. Non. Ça aussi, c'était une de vos motivations ?
Oh, ça, incontestablement, ça c'est certain. D'ailleurs, l'image de larguer les amarres pour partir sur l'océan sans savoir où j'allais m'a habité tout le temps. Donc partir, c'est dire que le matin, je ne savais pas où j'allais dormir le soir, il m'est arrivé plusieurs fois de dormir dans la nature, au milieu des animaux. J'ai vu et entendu des choses extraordinaires. Pas savoir qui j'allais rencontrer. Je n'ai rien programmé. Je suis parti seul.
Alors ça, on va en parler. En tout cas, ce n'était pas un défi pour montrer aux autres votre courage, dépassement de soi. Vous voyez, je suis handicapé, mais je peux le faire. Ce n'était pas un message de ce genre-là.
Non, il ne l'était pas. Alors en revanche, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit... Il y a beaucoup de gens qui me disaient « Oh, qu'est-ce que vous avez comme courage ?» Enfin, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Oh, c'est super, etc. » Et puis, l'histoire de la volonté, de la force de soi, du courage, non, parce que je ne suis pas quelqu'un de très courageux. Et puis cette idée, toutes ces idées qu'on a, là, en s'imaginant que c'est de soi qu'on va tout trouver, ça tombe au bout de 8-10 jours.
Alors Nicolas de Roglaudre, le 5 août 2013, vous partez donc du Puy-en-Velay et vous commencez votre marche à raison de 14 km par jour en vous appuyant sur vos deux béquilles. marche sur les chemins de Compostelle, extrait d'une vidéo qu'on peut retrouver sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de marcheurs qui ont posté leurs vidéos sur Internet, comme c'est le cas ici. Alors vous partez donc du Puy-en-Velay, Nicolas de Rouglaune, sur vos deux jambes, dont une artificielle. Comment est-ce que vous avez vécu ces premiers jours? Est-ce que les fameuses sensations dont vous parliez, l'esprit du Camino, hein, c'est ce qu'on dit aussi, sont apparues très vite? Qu'est-ce que vous avez
dans le rapport à la nature, certainement. Les premières choses que... Alors, c'était une période où il pleuvait pas mal. Bon, j'ai marché sur les 106 jours de marche. J'ai fait 106 jours de marche au total. J'ai eu, je crois, 21 jours de pluie. Donc des pluies assez violentes. Et puis, quand on marche le soir, par exemple, je suis parti une après-midi. Il y a tous les parfums qui remontent, surtout après la pluie.
Parfums de la terre, après la pluie,
et
oui.
C'est la première chose qui m'a frappé, c'était les parfums, les odeurs, les émanations, tout ce qui peut un petit peu sortir de la terre, des bois, des forêts, l'univers des sons. Alors moi, je suis musicien, les sons aussi, j'étais très sensible à cela.
Ce sont des oiseaux?
Alors, le son des oiseaux, le son des insectes, le son du vent, le bruit du vent dans les oreilles. Et puis alors, ça c'est après, très vite je vais en apercevoir, c'est le décalage qu'il y a entre les sons de la nature, les sons, on dirait, organiques, et puis les bruits de la tronçonneuse dans les bois, le bruit du scooter
qui sont moins harmonieux, mais qu'on ressent aussi.
Qu'on ressent et puis qui, au bout d'un certain temps, casse un petit peu quelque chose.
Comme une agression.
Oui, c'est vraiment une vraie agression.
Alors cela dit, vous marchez avec une seule jambe valide. Est-ce que votre autre jambe, avec sa prothèse, vous a posé très vite des problèmes?
Ah oui, alors là, j'ai eu beaucoup, beaucoup, là je dois bien le dire, j'ai quand même beaucoup souffert sur le moignon, sur la jambe.
Qu'est-ce qui s'est passé
J'ai eu des escarres, des nécroses, des plaies, puis à la fin un hématome énorme. En France, un peu au début, et puis surtout quand j'ai traversé le Gers et le Pays Basque, et puis en Espagne tout le temps pratiquement. Au bout de 5-6 jours, jusqu'au bout, donc pendant une bonne cinquantaine de jours, j'ai pas eu une journée où j'ai jamais eu
envie de vous arrêter à cause de la douleur, finalement, de vous dire, mais j'ai très mal, finalement, qu'est-ce que je fais là?
Alors non, je vais être honnête, je me suis jamais découragé, et jamais j'ai pensé que j'arrêterai sur ce genre de coup de tête. J'ai vécu une sorte de confiance dans les événements, dans ce qui allait se passer. Et bon, ben voilà, je rencontrais ici un médecin. Ici, j'essayais une crème qui allait marcher deux jours. Là, puis ça ne marchait plus après. Bon, c'est toujours un peu pareil. Et puis, là, j'écoutais un peu de musique. Je priais beaucoup. Alors ça, j'ai tout le temps prié. Ça, je n'ai jamais arrêté. Et puis brusquement, quelqu'un qui va cheminer avec moi, qui me fait oublier un petit peu ce que je vis. Et puis alors, il y a des choses après très pratiques, c'est-à-dire le fait de manger et de remettre en état, en ordre, l'état général. Quand l'état général va bien, quand on se sent bien, finalement, les douleurs locales
ont tendance à s'atténuer un peu.
Relativisées, oui, voilà. Ça, c'est un point important. Mais je me suis fait piéger plusieurs fois en partant le matin sans prendre le petit déjeuner, en me disant je prendrai ça dans 3-4 kilomètres. Et notamment, il y a une fois où je suis parti, et puis au bout de 5 km, je me suis effondré complètement et j'en pouvais plus.
Et vous marchez avec deux béquilles?
Je marche avec deux béquilles, si bien que j'avais des ampoules aux mains.
Alors, enfin, sur le moignon, mais également sur les mains.
Oui, également. Sur les mains, oui. Et puis alors, je médite des psaumes en permanence. Alors, j'ai l'image des
anges. Vous priez beaucoup. Ce n'est pas une démarche religieuse, mais vous priez beaucoup pendant ce chemin.
Ah oui, je
vous priez qui? Vous priez quoi?
Ah bah, je connais une trentaine de psaumes par cœur, donc ça, j'ai vraiment le temps de les méditer, de les reméditer, ça c'est bien utile. Et puis sinon, j'utilise la prière hésychaste, mais ça, il faudrait une autre émission pour en parler.
Voilà.
C'est vrai que c'est très efficace pour faire disparaître un petit peu les illusions sur soi, les émotions, les bavardages intérieurs. Le parlement qui parle en soi, ça c'est une expression d'Alexandra David Néel, que j'aime beaucoup. Alors là, le parlement, ça bavarde tout le temps dans notre tête. Ouais. Alors quand on prie, finalement, ces bavardages, c'est des nuages au-dessus de l'océan.
Les bonnes ondes, RCF.
Alors, ce chemin, Nicolas de Rouglaude, vous n'êtes pas le seul à le faire, je l'ai dit, il y a 220 000 personnes qui chaque année s'élancent sur ces chemins de Compostelle. Est-ce que vous avez fait des belles rencontres qui vous ont marqué?
Des rencontres tout le temps. D'abord, il y a le fait d'être seul, fait que je rencontre beaucoup de personnes qui sont comme moi, qui font le chemin seul. J'ai plus de mal avec les groupes, mais il est arrivé que des groupes m'invitent pour boire un jus d'orange ici, pour manger là. Alors, il y a les gens qui ne cheminent pas avec moi, qui m'invite. Alors, plusieurs fois, j'ai été invité, une fois par un Anglais, enfin, c'était extraordinaire, une autre fois par un couple belge qui m'a invité dans leur maison, une autre fois, c'est un monsieur qui est en train de préparer sa bouffe, il me voit passer, il me fait coucou, il me dit, venez manger avec moi. Voilà, là, c'est un Espagnol qui est en train de boire une bière, qui me dit de venir avec lui, puis qui me dit, moi, j'ai vécu en France tant d'années, etc. Alors là, j'en ai des dizaines d'anecdotes comme celle-là.
Puis, ces scouts qui vous ont aidé à un moment à passer une rivière, parce que avec votre jambe, vous aviez des difficultés à marcher, ils vous ont aidé.
Alors oui, il pleuvait, je devais franchir un petit rue qui était devenu un vrai torrent, on ne pouvait plus passer. Puis comme par hasard, là, comme la cavalerie dans Lucky Luke, hein, un groupe de scouts qui arrive. Et puis, ils aménagent un pont pour moi. Ils ont trouvé des planches, c'était vraiment très amusant.
Il y a aussi ce couple qui, en voiture, vous a vu sur le chemin de la route et qui vous a dit, allez, c'est pas possible de rester là.
Effectivement, j'étais perdu, j'étais sur une mauvaise route. Et puis, une voiture s'arrête, ils me disent, montez, c'est tout. Et puis, ils m'emmènent là où je devais aller. Et puis, ils me déposent sur le pont à l'entrée du village. Puis, ils partent. On n'a presque rien dit dans la voiture et disparaît.
Voilà, ça a déjà été un bon coup de pouce.
C'est des petites choses comme ça. Ouais. Bon, une autre fois, c'est un tracteur. Je vois arriver un tracteur. Et puis, il y a des gens qui m'ont dit, ah oui, il y a une personne qui est handicapée, une jambiste, là, qui a du mal à marcher. On était dans la boue, il pleuvait. Puis le gars m'a empris sur son tracteur. Il m'a fait à peu près une quinzaine de kilomètres pour m'emmener à un gîte plus loin. Bon, ça, c'était en France.
Mais il y a eu encore d'autres belles rencontres. Je pense notamment à ce médecin qui vous a soigné d'une manière tout à fait écologique.
Oui, de Karl, ça, c'était l'Allemand. Alors, j'étais sur un chemin où c'était vraiment... j'ai passé une journée très difficile. Puis le soir, je m'arrête dans un gîte qui était désagréable, enfin, l'accueil n'était pas terrible. Et puis je tombe sur une petite japonaise au restaurant qui se précipite dans mes bras, qui m'embrasse, qui me dit « Ah, tu es déjà là !» Enfin, en anglais, parce qu'on parlait anglais. Et puis alors, on a passé la soirée ensemble. Et puis elle me dit, toujours en anglais, que y a un raccourci un peu plus bas après la prochaine étape. Bon, ben, j'étais quand même pas très bien. Alors la petite japonaise, je l'ai revue plusieurs fois après, notamment à Santiago. On est allé à nouveau manger ensemble. Et alors la nuit, je suis parti, j'en pouvais plus. Il était 2h du matin. Je suis parti dans le noir. J'avais froid. On était en altitude. On était à 1200-1300 mètres. Et puis j'avais mal partout. Je m'arrêtais tous les 100 mètres pour respirer, pour faire un petit massage du moignon. Enfin, c'était vraiment très, très, très dur. Hein. Et puis, des événements brusquement qui arrivent, notamment un lever de soleil magnifique, un bar où on m'a offert tout ce que je voulais pour manger. Et puis, j'ai pensé à ce moment-là à ce que m'avait dit Miyoko, la petite japonaise. J'ai dit, je vais prendre ce petit raccourci. Je prends ce petit raccourci, je tombe sur un gîte écolo. Et puis, dans ce gîte, il y avait un médecin allemand, Karl, qui, quand il a vu l'étoile de mon moignon, il m'a dit, écoute, je vais m'occuper de toi. Ouais. Et puis, il m'a soigné avec des produits naturels, en onguents chinois.
Ça a marché, et si alors, je puis dire.
Incroyable, le lendemain matin, je n'avais plus mal du tout.
Alors, il faudra donner la recette, parce que je pense que ça devrait intéresser pas mal de gens.
Alors, en tout cas, ce qui est amusant, c'est que, en fait, c'est un peu le chemin. C'est-à-dire que les gens, ils croisent comme ça. Le lendemain, je ne l'ai pas vu. Ouais. Le soir, il m'a soigné, puis le lendemain, il est parti avant moi. Je ne l'ai jamais revu.
C'est un petit peu la magie de Compostelle, toutes ces rencontres qu'on peut faire. Alors, de très belles rencontres. Pourtant, vous n'avez jamais supporté les remarques de compassion du genre, oh là là, quel courage vous avez, quelle volonté. Yuran, exceptional man, vous avez même confié une Australienne. Pourquoi ça vous agaçait, ces remarques qui partent pourtant d'un bon sentiment ?
Non, ça ne m'agaçait pas, c'était surtout la répétition qui m'agaçait. C'est-à-dire, je savais qu'on allait me dire ça dès qu'on allait me dépasser. Je marche en short, avec des sandales. Ma prothèse est décorée de toutes les couleurs. Donc, je vous la montrerai éventuellement discrètement après l'émission.
Mais en tout cas, vous n'avez pas supporté ces remarques.
Alors, on ne les supporte pas, par exemple, quand on est très fatigué. On en a un peu marre. Non, sinon, je prenais beaucoup les choses sur le ton de la plaisanterie.
Du style, ça me fait une belle jambe, vous étiez capable de vous moquer de vous-même.
Du style, je me suis fait, j'ai perdu ma jambe avec des requins en mer rouge. J'ai perdu ma jambe parce que je sauvais une princesse indienne dans la forêt et puis il y a un tigre qui m'a attaqué. Ou alors... il y a une meute de loups qui m'a attaqué sur le chemin.
Je pense que les gens ne devaient pas en croire un mot. En tout cas,
non, ils n'en croyaient pas un mot.
Voilà, en tout cas,
de temps en temps, il y en a qui croyaient. Si, il y en a qui étaient.
En tout cas, être comme les autres. Et le voyage va prendre fin en juin dernier. Écoutez. Voilà, vous n'avez pas l'image, mais je peux vous la décrire. C'est le lancer du Botafumeiro, je ne sais pas si on prononce bien. En tout cas, c'est la cathédrale de Santiago, le plus grand encensoir du monde qui se balance sous les flashs des pèlerins. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le découvrir, Nicolas Droglaudre.
Oui, je l'ai vu...
De très près, je crois.
Je l'ai vu de très, très près. Oui, parce que quand on arrive à Santiago... quoi. Les gens commencent à rire, à marcher ensemble, et puis arrive à Santiago, on s'embrasse, etc. Et puis tout le monde va à la messe, hein, que les gens soient croyants, incroyants, qu'ils soient bouddhistes, protestants.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive à Santiago ? Est-ce qu'on se dit, d'abord on doit être content parce qu'on arrive au bout, mais est-ce que finalement on est aussi content que ça, puisque c'est le bout du chemin ? Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous ?
Bon, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est cette fraternisation dont j'ai parlé. Donc, on s'embrasse, on s'invite au restaurant, au café, on parle, etc. Bon, ça dure un jour. Et puis, après, il y a aussi un gros blues. J'ai eu un terrible blues le lendemain. Alors là, vraiment, j'ai pleuré toutes mes larmes, puis disant, ben, voilà, je ne vais pas repartir demain. Alors que chaque jour, je repartais, je ne vais pas repartir. Et puis après, bon, un retour sur soi, on relit un petit peu ce qui s'est passé. Toutes les journées, moi j'ai passé 3 heures dans la cathédrale à un moment, en méditation, en prière, j'aurais vécu tous les jours du chemin espagnol. Et puis je me dis, il faudra que je refasse ça pour le chemin français aussi. Donc tranquillement, en me disant, ben voilà ce que j'ai rencontré, ce qui m'est arrivé, etc. Donc ça, ce sont des points
sensations
importants.
Qui arrivent, oui.
Et puis après aussi, les déplacements qu'on a vécu dans sa tête, notamment... Je vous ai parlé de la confiance et j'étais en train de réfléchir avant de venir vous rencontrer. Je me disais, si on me demande si j'ai la foi, moi je dis non, j'ai pas la foi, mais j'ai envie d'être incroyant. Incroyant, c'est-à-dire, c'est le domaine de l'être, c'est pas du domaine du savoir, de l'avoir, du pouvoir, des connaissances ou je ne sais trop quoi. C'est un peu confiance qu'on fait aux événements, aux rencontres, tout ce qui peut arriver.
Alors justement, Nicolas Droglo, vous êtes parti en écrivant sur votre blog, quand on me demande ce que j'attends du chemin de Compostelle, je réponds, je n'en sais rien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez changé d'avis ? Est-ce que vous savez toujours ou vous ne savez toujours pas ?
Je ne sais toujours pas d'une certaine manière, parce que je ne sais pas ce que je vais devenir. J'ai envie de repartir, de refaire le chemin éventuellement sous une autre forme, je ne sais pas. Il y a des choses que j'espère irréversibles. Alors, quelquefois, je me dis, je ne sais pas si ça sera irréversible, mais je crois qu'un des mots vraiment essentiels dans mon arrivée, c'est le mot paix. J'étais terriblement paisible. Pas terriblement, ce n'est pas le mauvais mot, mais c'est une sorte de dépassement de tous ces ressentiments qu'on a dans sa
tensions,
vie,
toutes ces tensions. Cette accumulation de fil en fil, d'année en année, se superpose par couches, qui vous empêche d'avancer.
Alors voilà, donc les échecs, les réussites, les frustrations, je ne les vis plus du tout sous cet angle-là, je les vis comme un récit d'histoire. Quoi.
Ça vous a permis de prendre du recul finalement sur vous-même ?
Ah oui, certainement, oui. Ouais, retour aux choses et au sens.
Oui. Et au sens de la vie. Et aujourd'hui, comment va votre jambe droite, Nicolas Rogloudre ? Est-ce qu'elle a survécu ? Est-ce qu'elle s'est renforcée ? Est-ce qu'elle s'est fortifiée à travers ce chemin de Compostelle ?
Fortifiée, je ne sais pas. Quand je suis arrivé chez moi, j'avais un gros hématome. J'avais maigri. Donc la prothèse, j'ai dû faire des bricolages incroyables pour pouvoir la tenir encore. Mais j'avais prévu, j'avais anticipé, c'est amusant. Je suis allé voir ma prothésiste, on a parlé de ça ensemble.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?
D'abord, elle a beaucoup ri parce que j'avais un genou électronique qui était en prêt d'une société parce que ma prothèse était en réparation. Donc c'était une prothèse un peu de remplacement que j'avais. Et alors, elle a beaucoup ri en disant, lui, donc, quand elle va voir que vous avez marché entre 1 200 000 et 1 500 000 pas,
ça montrera
elle
que c'est efficace.
Elle va montrer que c'est efficace, oui.
Nicolas Droglaud, si on veut partager vos réflexions, votre aventure sur ce chemin de Compostelle, on peut se reporter à votre blog que vous avez lancé, dont je donne l'intitulé blog.nicolasdroglaud.net, que vous mettez à jour régulièrement. Avant de se quitter, est-ce qu'il y a une chanson, un air, une mélodie qui vous inspirait ou qui vous redonne de l'énergie ?
Moi, j'écoute de la musique classique. J'ai beaucoup écouté de Schubert, notamment le tout dernier quintet avec deux violons. Et puis, la Passion selon Saint-Jean de Bach, que j'ai écouté quand même plusieurs fois. Et puis, le tout dernier jour, j'ai marché avec la 3e symphonie de Mahler, et qui est pour moi le concentré de ce que j'ai vécu sur le chemin. Ça, y a aucun doute, je pourrais écrire un livre entier sur ça.
Eh bien, on va se quitter en écoutant justement ce 4e mouvement de la 3e symphonie de Mahler. Merci Nicolas Droglaud.
Merci beaucoup.